Vacances, le voici arrivé, le moment tant attendu.
Quand faut y aller, merde.
Cinérama, saison estivale.
Y'a du soleil, y'a des nanas, na-la-di-la-na.
Cinérama l'été.
On va s'enfourrer jusqu'à là, na-la-di-la-na-na.
Je vais vous tenir au courant des mesures qu'on va prendre.
À mon avis, il y aura des ouvertures.
Génial.
Nous dépendons énormément de la saison d'été, c'est vital.
Cinérama l'été, on se passe de l'actualité.
Eh bien, je dois reconnaître que vous n'êtes pas comme je m'étais imaginé.
C'est une blague.
Jamais très original dans ces moments-là.
This is Cinérama.
Bonjour et bienvenue, Cinérama continue pendant l'été, c'est toujours 30 minutes, mais on change un peu le principe, plutôt que de faire essentiellement de l'actualité, eh bien les films qui sont dans les salles arrivent en toute fin d'émission, quand on a le temps, mais on privilégie de vous faire partager deux séries, l'une c'est sur les bandes originales de films, et là nous allons entrevoir la décennie 1970-79, et puis toi tu as une série sur Marcel Pagnol.
Oui, moi c'est un peu plus intemporel que la musique de film dont on parle, c'est César aujourd'hui à l'honneur, la conclusion de la trilogie marseillaise.
Mais nous allons commencer avec le blind test des musiques de film.
Merci messieurs, c'était très bien. C'est de la bouillie tout ça.
Cinérama.
C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà, exactement. Alors reprenons.
Allez, on est dynamisé par Louis de Funès. Donc le principe de ce blind test consacré aux bandes originales et à travers ces bandes originales évidemment les compositeurs, eh bien c'est de parcourir des décennies. Nous en sommes arrivés à la décennie 1970-1979. Il y a 5 extraits et voici le premier extrait. Trouvé, Guillaume.
Oui, c'est La Nuit américaine composée par Georges Delerue.
Oui.
Pour le film Truffaut.
Et le film de Truffaut de 1973. Georges Delerue, figure majeure de la musique de film française, compose ici eh bien, une pièce lumineuse et élégiaque. La Nuit américaine de François Truffaut est une déclaration d'amour au cinéma, hein, et la musique en épouse eh bien, parfaitement le ton, doux, nostalgique et lyrique. Le thème principal évoque la magie de la création artistique et les drames discrets de ceux qui la font. Delerue, souvent surnommé le Mozart des Champs-Élysées, insuffle. Alors c'est vrai qu'on sent cette tonalité très classique, hein, insuffle une humanité délicate à cette partition typique de son style raffiné. Deuxième extrait, donc il faut trouver, alors ça va être facile je pense, même très facile, un film, une bande originale d'un film entre 70 et 79. Alors, c'est évidemment facile.
Voilà, oui, quand même. C'était Le Parrain par Nino Rota.
Oui, c'était le thème de l'amour, aussi appelé Speak Softly Love. Voilà, ça c'est quelque chose que j'ai appris, qui est devenu donc une icône musicale. Nino Rota, déjà célèbre pour ses collaborations avec Fellini, crée un thème à la fois simple et puis obsédant, presque funèbre, qui résume l'ambiguïté de la saga, amour, famille, trahison et mort.
Il lui a fait une musique qui ne peut pas refuser.
La mandoline et les cordes donnent une couleur italienne, hein, mélancolique, à cette musique qui traverse toute la trilogie. Malgré son rejet initial aux Oscars pour cause de réutilisation partielle, ce thème est devenu vraiment légendaire. Le Parrain. Le troisième extrait de ce blind test.
«
Alors, ce n'est pas trouvé. C'est encore Brian De Palma hein, pour ce film, après Le Parrain.
Et c'est Bernard Herrmann.
Alors non, par contre c'est un grand compositeur, j'ai pas mis sa composition la plus célèbre, mais c'est John Williams le compositeur, c'est pour...
Alors c'est pour Fury.
Oui, c'est pour Fury, tout à fait.
Ben, oui, De Palma un peu oublié, adapté d'un excellent roman de John Faris.
Alors c'est une composition souvent éclipsée par ses œuvres plus célèbres, hein. Fury révèle un John Williams plus sombre, plus baroque et résolument expérimental, et le titre principal est une explosion orchestrale d'angoisse et de tension psychique.
Mais on oublie beaucoup le Williams, presque des films d'horreur ou de genre. Hein. Sa partition pour Dracula de John Badham qui est exceptionnelle, personne ne s'en souvient. Et d'ailleurs, j'ai un peu honte de ne pas l'avoir trouvé, là, ce Fury.
Ah, c'est pas grave. Tu t'en sors bien. Quatrième extrait de ce blind test, donc une bande originale de film dans la décennie 70-79. Alors j'ai choisi cette musique parce que je la trouvais, bonne. Mais je connais pas le film. C'est The Talking of Pilam One Two Three.
Ah, c'est les Pirates du métro.
Ah, c'est. Oui. Ouais, mais je connais pas.
Qui est un des films préférés des milliers de films préférés de Tarantino, et qui avait été remaké par Tony Scott dans les années 2000.
Ah d'accord. Je ne connaissais absolument pas. Donc le compositeur, c'est David Shire, qui livre ici une des bandes originales les plus emblématiques du cinéma urbain des années 70. Eh ben tiens, voilà, encore une chose que j'apprends. Et donc, là, ça mêle jazz, funk, syncopé, batterie sèche, cuir nerveux et rythme asymétrique pour évoquer le tumulte du métro new-yorkais. Voilà, maintenant, c'est le cinquième extrait de ce blind test. Alors, tu n'as pas laissé passer ça, c'est...
Ah non, dès les premières notes, c'est le thème de l'inspecteur Harry par le regretté Lalo Schifrin qui vient de nous quitter.
Eh oui, c'est vrai.
Alors, petit clin d'œil. Je me rappelle de quoi, 92, 93 ans, ce qui est pas mal quand même.
Et là, il fusionne jazz, funk et musique électronique pour créer un thème nerveux, moderne et glacial. Dirty Harry marque un tournant dans les films policiers américains. Et la musique de Schifrin, tout aussi provocatrice que le personnage de Clint Eastwood, est bien rond avec les codes orchestraux classiques, comme on en a d'ailleurs entendu au début de ce blind test.
Et comme tout bon compositeur, il saura se renouveler pour les suites, en particulier pour Magnum Force et pour Sudden Impact. Écoutez-les, ça vaut le détour.
Eh bien, merci pour ces précisions, Guillaume, et on rejoue la semaine prochaine, donc avec un blind test, mais sur la décennie suivante. Alors, pour John Williams, on a écouté Fury, mais on aurait pu écouter ceci. Ainsi s'achève donc ce blind test consacré aux bandes originales de films. Nous passons maintenant à la seconde série de ces émissions estivales de Cinérama. Elle concerne Marcel Pagnol et aujourd'hui un film qui a fait date, qui est très connu, c'est César.
Parlez normalement et détachez bien chaque réponse.
Cinérama.
Votre identification vocale est terminée, vous êtes en règle.
Merci.
Oui, c'est effectivement très difficile de présenter César avant, mais encore plus aujourd'hui, parce que c'est un chef-d'œuvre, c'est un chef-d'œuvre qui se redécouvre toujours et il est bon de replonger dans ce vieux port des années 30, celui chanté par Pagnol dans ce que l'on appellera très vite sa trilogie marseillaise et qui a le bon goût de savoir s'ancrer dans son époque pour au mieux être intemporel. Alors il est temps de redécouvrir un film qui a, le goût du soleil et d'une tendresse déchirante, mais aussi celle des secrets et des silences. César sort en 36 et fait suite à Marius et Fanny. C'est une conclusion, c'est un épilogue d'une saga familiale aux tourments vieux comme le monde, mais qui n'ont peut-être jamais été aussi émouvants que sous le soleil méridional.
Il ne parle plus. Pas un mot, pas un geste. Le docteur vient de passer.
Qu'est-ce qu'il a dit ?
Il a dit il est cuit.
Il est cuit ?
Il est cuit.
Oh, pauvre Honoré. Monsieur Braille, Pani, c'est cuit.
Oui,
Qu'est-ce qu'il a dit ? Il a parlé. Tu as parlé, Honoré ?
Couillon.
Il a dit couillon.
Oh, ben alors il va mieux.
Il rêve, peut-être.
Il me semble que je suis mieux. Maintenant, je peux respirer.
Moi, je crois que tu es sauvé.
Oh, sauvé. Tu sais, écoute, Félix.
Non, je n'écoute pas et je veux te dire mon point de vue.
Mais laisse-le parler. Il n'a plus que quatre bouffées d'air et tu lui coupes tout le temps la parole.
Est-ce que je veux dire quelque chose d'intéressant?
Oh, c'est bien le moment de faire l'important, surtout un jour comme aujourd'hui, hein? Enfin, voyons, qu'est-ce qui meurt ici? C'est toi ou c'est lui?
C'est lui.
Alors si c'est lui qui meurt, laisse-le parler.
On rappelle que Marcel Pagnol, c'est d'abord un homme de lettres, agrégé, académicien, dramaturge à succès dans les années 20, qui se tourne vers le cinéma au début des années 30, à une époque où le parlant vient de révolutionner le 7e art. Alors là où beaucoup de cinéastes tâtonnent avec les dialogues, lui, il manie la langue comme un orfèvre, et pour cause, il était auteur de pièces à succès, lui qui a très vite compris que le cinéma parlant n'est pas l'ennemi du théâtre, mais son prolongement naturel. Alors je le rappelle parce que il a compris que c'était une porte ouverte vers un public bien plus large, en plus d'immortaliser sur pellicule ses textes, mais aussi les performances remarquables de ses comédiens. Donc c'est pour ça qu'en 31, il adapte pour l'écran sa propre pièce Marius, dont il confie la réalisation à Alexander Korda. Ensuite, c'est Marc Allégret pour Fanny. Et ce n'est qu'en 36 que Pagnol décide de réaliser lui-même le troisième et ultime opus, César. Donc, trois films, trois volets d'un même récit, d'une même saga populaire au cœur du Vieux-Port, mais aussi trois actes d'un théâtre de la vie. Mieux, le Vieux-Port est devenu un théâtre mundi grâce à la caméra de Pagnol.
Marius.
J'ai réfléchi longtemps avant de venir, j'avais peur. Et j'avais raison.
Vous peur de quoi ?
Je t'aime toujours, Fanny. Toujours comme avant. Même plus qu'avant. Moi, je te voudrais toute nue. Enfin, c'est-à-dire sans rien, comme tu étais quand je t'ai connu. Seulement l'autre jour, dans la cuisine de mon père, quand je t'ai regardé trois ou quatre fois, je t'ai plus reconnu. Moi, il me semblait que ce n'était plus toi. Je sais pas, tu parles plus comme avant, tu n'as plus le même regard. Et bien sûr, tu as fréquenté des gens instruits, des gens qui savent parler. Moi, je suis resté un ouvrier, un artisan, si tu veux. Et naturellement, je me cure pas les dents avec la pointe d'un couteau. Seulement, si j'avais le bonheur de vivre près de toi, peut-être je ferais des plaisanteries qui te feraient pas rire du tout. Je sais pas, moi. Peut-être qu'en voulant te plaire, je te choquerais, je te déplairais, moi.
Alors l'histoire reprend 20 ans après les événements de Fanny. Le petit Césario, fils caché de Marius et Fanny, a grandi dans l'idée que son père est Panis, le mari de sa mère. Mais Panis, ou Honoré Panis, mourant, demande à Fanny de lui révéler la vérité. Il avait demandé la main de Fanny pour lui éviter le déshonneur d'alors d'accoucher d'un enfant sans père. Et si lui a toujours été amoureux d'elle, il n'a jamais profité de cette situation. Alors Fanny gardait la tête haute, Panis pouvait élever un enfant qu'il considérait comme son fils, lui qui ne pouvait pas en avoir, et tout le monde serait heureux et à l'abri du besoin. Cesario part alors à la recherche de son véritable père qu'il croit être un mauvais garçon. Il le retrouve, le rejette, puis découvre le véritable cœur qui bat derrière la coquille du solitaire. Marius a voulu embrasser la mère et quitter le bistrot de son père, mais ne savait pas qu'il avait laissé plus qu'une fille éprise de lui en partant après une nuit d'amour. C'est l'heure des retrouvailles, des contes, des pleurs, mais aussi des pardons.
Mais Marius, maintenant, si tu voulais de moi, ton amour me suffirait. Marius, ne refuse pas. Mais je n'ai plus que toi.
Il me semble que ce serait malhonnête d'accepter un sacrifice pareil. Je vais réfléchir quelques jours, je vais voir ce que nous devons faire. Je vais voir aussi si j'ai le droit de le faire. Pardonne-moi, Fanny, j'ai trop envie de t'embrasser. Si j'épousais Fanny, tu serais content?
Non, je serais furieux. Tu passes.
Et tu sais que Cesario ne portera jamais notre nom?
Lui, non. Mais les autres.
Avec César, Pagnol signe un film moins théâtral que les deux précédents, dans le sens où l'action se déplace plus que dans les précédents films, confinés entre trois intérieurs. Alors la caméra est un peu plus libre, les décors plus vastes, on va dans des rues, on va dans les paysages marseillais, et surtout une conclusion en pleine nature qui viendra sceller l'histoire en suspens de Marius et de Fanny. Suspens pendant 20 ans quand même. Le moteur de l'action reste néanmoins la parole, et celle de César est toute particulière. Bien sûr, il y a toujours des rires et des bons mots, mais derrière l'humour se cache une immense mélancolie. Bien avant La gloire de mon père, Pagnol aborde dans sa trilogie marseillaise la figure du père, des liens du sang et du cœur, et y réfléchit avec une profondeur émouvante. C'était le passage le plus mémorable de Fanny, celui où Pagnol touche ici à une forme de grâce qui entremêle la gouaille marseillaise et la tragédie antique.
Puisqu'il est mien, ce petit, ce serait à moi de me faire du mauvais sang, non?
Et justement, tu t'en fais pas.
Mais non, Marius, il n'est pas tien. Toi, tu étais son père avant qu'il naisse.
Quand...
Depuis qu'il est né.
Quand t'en es père de Guérin, c'est pour toujours, non?
Non. Cet enfant, quand il est venu au monde, il pesait 4 kilos. 4 kilos de la chair de sa mère. Maintenant, il pèse 9 kilos. Mais c'est 5 kilos de plus. Tu sais ce que c'est? C'est de l'amour. Et pourtant, c'est léger, l'amour. Il en faut pour faire 5 kilos. Moi, j'ai donné ma part. Oh, elle aussi. Mais celui qui a donné le plus, c'est lui, Panis. Et toi, qu'est-ce que tu as donné?
La vie?
La vie, ah oui. Oui. Les chiens aussi donnent la vie. Non, Marius. Cet enfant, tu ne l'as pas voulu. Ce que tu as voulu, c'est ton plaisir. La vie, tu ne lui as pas donné. Il te l'a prise. Ce n'est pas pareil.
Mais nom de Dieu, qui c'est le père? Celui qui a donné la vie ou celui qui a payé les biberons?
Le père, c'est celui qui aime.
César apporte donc la conclusion à cet échange avec le personnage interprété par Rému au centre direct de tout ce qui se passe. Orson Welles disait qu'il était le meilleur acteur du monde et ce n'est pas nous qui pourrons le détromper à la fin du film. Pagnol ne boucle pas seulement une histoire, il nous touche au plus profond du cœur en nous exposant de quoi est faite notre identité.
Eh bien merci Guillaume, tu reviens avec cette série sur Marcel Pagnol évidemment la semaine prochaine. Nous allons aussi profiter de cet été pour rediffuser des blind tests que nous avons écoutés eh bien, soit cette année ou des années précédentes. Et nous allons par exemple écouter la rediffusion d'un blind test sur les films qui se déroulent dans le grand froid.
Vous avez tous lu ou entendu parler des enregistrements
Cinérama.
Mais peu savent exactement ce que signifie cette formule.
Rediffusion.
Jouer avec la filmographie et des films qui donc se déroulent dans le grand froid, ça pourrait être facile. On va commencer, je pense d'ailleurs, très facilement avec un premier extrait.
Oui, nous sommes ici en présence d'un organisme qui imite, qui reproduit toutes les formes de vie et qui plus est, les imite à la perfection. Lorsque chose a attaqué nos chiens, elle a essayé de les digérer, les absorber. Et ce faisant, d'en assumer totalement l'apparence physique. Ceci, par exemple... n'est pas un chien. C'est une nation. Nous avons tué la chose avant qu'elle ait pu finir.
Finir quoi ?
Finir son imitation de nos chiens.
Alors, Magritte disait « ceci n'est pas une pipe », si on entend que ceci n'est pas un chien. Et
de... En tout cas, on n'est pas d'accord avec Manu sur qui l'a dit en premier, ah. Mais je suis pratiquement sûre que moi, j'ai eu le temps de finir, pour le coup, de dire « The Thing » avant lui.
Le film de John Carpenter, et non pas le remake récent, qui était pas très bon.
Pas très bon.
Film de 82. Alors, deuxième extrait.
Je te laisse la camionnette. Je prends la Syrah. On la partage. Et tu la partages comment, la bagnole, hein, gros débile, avec une putain de tronçonneuse?
Il y en a un des deux qui paie à l'autre la moitié de ce qu'elle vaut.
Attends, ça, putain, jamais. T'as vu ça, connard? Il s'est pris une balle, putain! Il s'est pris une balle dans la gueule! J'ai été chercher ce putain de pognon et j'ai pris une balle dans la gueule, merde, tu te bouts depuis 36 heures, putain de Dieu! Et je prends cette putain de voiture, cette bagnole est à moi, espèce de putain d'enculé. Je me farcis des conneries depuis une semaine. On est quitte ?
L'imprévisible ou prévisible, Steve Buscemi d'ailleurs, on ne sait pas
trop. Le Forgo.
C'est bizarre en version française quand même.
C'est bizarre, mais quand même.
J'ai jamais entendu. En
avec
fait,
une patate dans la bouche, ouais. Ça le fait bien.
C'est assez
donc ça a été trouvé, c'est évidemment Fargo, des frères Cohen, film de 96. Allez, un troisième extrait.
Si j'en juge par ces affiches, il devrait être quatre. Je vous ai vu en charger que deux.
Oui, le second et le troisième. Et il y en a un autre qui se trouve déjà sur place et qu'on ne m'a pas encore payé.
La prime est la même qu'il soit mort ou vivant. Mais vous, si j'ai bien compris, vous êtes spécialiste en cadavres.
Bon, ça coûte trop cher de les prendre vivants. Et c'est pour ça que la loi se montre compréhensive. Et puis, c'est bien plus dangereux. Ces gens-là sont contre la morale, contre Dieu, contre l'ordre et contre le genre humain. Non, c'est une bonne action de les tuer. Puis je ne veux pas prendre de risques.
Alors, c'était peut-être moins facile, mais tu l'as trouvé, Manu.
Et donc c'est le grand silence avec Jean-Louis Trintignant qu'on ne risque pas d'entendre, hein, un film de Corbucci qui date de 68.
Parce que Trintignant joue un muet. Ouais, voilà.
Et certainement, je dirais pour moi, le plus grand western italien avec Il était une fois dans l'Ouest.
C'est pour ça que je l'ai casé dans ce blind test. Alors maintenant, eh bien, un film français.
Vous espérez intégrer le FBI ?
Non mais la police canadienne, j'aurais adoré. Le concours est très sélectif. Ils expliquent comment faire des moulages d'empreintes dans la neige. Il faut de l'eau bouillante et du soufre. La neige fond et le choc thermique fixe le soufre instantanément.
Oui, et alors ?
Et alors ? C'est le moulage d'empreintes des raquettes de Candice dans le No Man's Land. Elle est beaucoup trop profonde et correspond au poids de deux personnes comme si quelqu'un l'avait portée jusque-là. J'ai montré la marque rouge sur la joue là au médecin légiste. Pour lui, c'est pas une lividité, c'est une marque de coup.
Pourquoi vous venez dire tout ça à moi ?
C'est Jean-Paul Rouve.
Oui, c'est Jean-Paul Rouve, Marine.
Oui, c'était pas évident, mais c'était Poupou Pidou.
Oui.
C'était pas mal, d'ailleurs.
De Gérald Eustache Mathieu, qui a été tourné dans la ville la plus froide de France, à Moutes, dans le Jura. Oui, paraît-il. Allez, dernier extrait facile.
À ceux d'entre vous qui osent affronter leurs rêves, Adventure Consultants offre ce qu'il n'est pas possible de décrire avec des mots. Et pourquoi on ne le décrit pas dans la brochure ? Parce que c'est surtout de la souffrance. En deux mots, les gars. Les êtres humains ne sont tout simplement pas faits pour fonctionner à l'altitude de croisière d'un 747. Alors une fois qu'on sera là et qu'on aura passé le col sud, nos corps vont littéralement mourir. J'insiste, littéralement mourir. C'est pas pour rien que ça s'appelle la zone de la mort. Alors voilà la question. Peut-on vous conduire jusqu'au sommet et vous ramener en bas avant que ça se produise ?
C'est un film de 2015, réalisé par un Islandais, Balthazar Kormákur.
Ah, c'est c'est une catastrophe, c'est ça ?
Oui.
Qui est sorti.
Et qui raconte les expéditions, les premières expéditions sur le toit du monde dans les années 90.
Haute altitude, altitude extrême ?
Non,
Everest. Altitude ultime.
Everest, tout simplement. C'est Everest, film avec Jason Clarke, Jack Gyllenhaal, qui joue un personnage absolument étrange, et Josh Brolin. Film que j'ai beaucoup apprécié. Voilà, ainsi s'achève ce blind test spécial Grand Froid.
This is Cinerama. Cinerama.
Voilà, c'était la rediffusion d'un blind test de l'émission, puisque nous aimons les blind tests dans Cinérama. On termine maintenant avec la partie actualité de cette émission. La forêt des rats, hibou a disparu, le lac déborde, des renards et lapines mènent l'enquête. Nous parlons de renards et lapines sauvent la forêt.
Dans mon métier, on demande parfois aux gens des choses bizarres.
Mais enfin, qui êtes-vous ?
Cinérama.
2 ans après Chonchon, le plus mignon des cochons, et que j'avais déjà chroniqué ici, hein, la réalisatrice néerlandaise Masha Halberstad revient toujours avec des animaux et une animation qui émule la stop-motion avec Renard et Lapine sauvent la forêt. Alors l'histoire raconte les aventures de Renard et Lapine, deux amis proches, entourés d'une bande d'animaux qui forment une sorte de famille des bois idéales. Alors un jour, de l'eau s'infiltre dans leur précieux habitat et de fil en aiguille, ils se rendent tous compte que le paysage a grandement changé. L'eau a monté et menace toute la forêt. Leur ami Hibou, hein, disparaît mystérieusement et c'est l'occasion de se lancer à sa recherche. Cette disparition serait-elle liée à la montée des eaux et aux agissements d'un castor voulant accomplir l'œuvre de sa vie aux dépens de tous ?
Ah, les voilà. Merci Bernard et Lola de nous offrir cette magnifique fête d'adieu.
Vous devez vraiment partir ?
Le devoir m'appelle. Et que serait un phoque sans la mer ?
Oui, j'entends la mer nous appeler.
Tu sais que la mer se trouve de l'autre côté, Irène.
Renard et Lapine sauvent la forêt est basé sur la série de livres Vos en As en des Bos Bas. C'est pourquoi on semble s'attendre aux spectateurs à qu'ils connaissent ces personnages qui ne sont pas présentés ni développés. Alors c'est bien évidemment un souci hein, pour ce récit et pas forcément populaire de par chez nous. Et donc cela montre le premier souci du long métrage qui a du mal à créer du lien émotionnel avec le spectateur. Alors là où on bascule dans l'universel, hein, c'est quand la forêt est menacée de destruction. Le film se transforme alors un commentaire sur le monde d'aujourd'hui, hein, explore des thématiques écologiques bien sûr, mais fait aussi un portrait de l'égoïsme individuel qui devient un problème global à la longue. Hibou est obsédé par son doudou qui ne trouve plus, quitte à délaisser les autres. Il y a l'antagoniste, hein, un castor doté d'une vision hein, qui se moque complètement du cauchemar qu'il provoque et qui se déverse littéralement dans la maison des autres. Certains tentent de l'arrêter, mais Renard, pendant un bon moment, ne peut s'empêcher d'être un peu intrigué par ce maniaque égocentrique, par son assurance et son pouvoir et cède à son empire sous-marin hein, fait de jeux, de gâteaux et de plaisirs faciles. La réalisatrice n'hésite pas à montrer le castor hein, qui a perdu toute raison avec une immense hein, sculpture de glace à son effigie occupant la majeure partie de sa maison et une folie des grandeurs qui rappelle celle de nombreux politiciens actuels.
Boubou, où te caches-tu ?
Boubou a disparu. Il faut qu'on le retrouve.
Je vais aller le sauver parce que je suis un excellent nageur.
Nous devons arrêter cette eau ou elle inondera toute la forêt.
Alors la force de Renard et Lapine sauve la forêt hein, et sa douceur, hein, jusque dans son absence véritable d'antagoniste. Hein. Alors si le castor est présenté comme un méchant hein, et qu'il a effectivement un affrontement, ce méchant n'est pas réellement méchant et baisse bien vite les bras hein, lorsqu'il s'agit de reconnaître que l'amitié vaut mieux qu'une maison bling-bling où on a vite fait hein, passer le confort et les distractions des premiers temps de s'ennuyer. Alors cette douceur est aussi sa plus grosse faiblesse car comme pour Chonchon, le plus mignon des cochons, il n'y a pas vraiment de réelle tension ni de moments qui feront véritablement frémir les spectateurs. Alors vous me direz que c'est normal car c'est avant tout pensé pour les plus jeunes, hein, mais je pense qu'un bon équilibre entre les tropes parfois sombres hein, d'une bonne histoire et les besoins de divertissement des enfants hein, ne sont pas du tout antinomiques hein, et qu'un peu plus d'enjeux, de tension et du coup de profondeur aurait grandement permis à Renard et Lapine Sauve la Forêt d'avoir une vraie personnalité et de rester dans les mémoires. Alors à l'image de ces protagonistes qui n'ont pas de nom et se résument à leur fonction primaire due à leur espèce, on reste un peu trop en surface et donc sur le banc de l'émotion.
Mais on peut quand même emmener ses enfants et tout regarder la bande-annonce qui pourrait être captivante de Renard et Lapine Sauve la Forêt en salle depuis le 23 juillet.
Au revoir. Ça s'impose.
Mais pour quelle raison ?
Qu'est-ce que vous racontez ? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ?
Je ne connais pas la réponse moi-même.
Comme vous êtes bizarre.
Oui !
C'est difficile de répondre.
C'est une plaisanterie !
Nous nous retrouvons la semaine prochaine avec toujours nos deux séries, une sur les bandes originales de films avec un blind test et puis toi tu reviens avec un film de Marcel Pagnol.
Oui, et un film particulier vu qu'il était perdu, c'est La prière aux étoiles.
À la semaine prochaine.